DW. Économie et développement. Ce numéro de votre magazine est consacré au Gabon, pays d'Afrique centrale en pleine transition politique depuis la prise du pouvoir par les militaires en août 2023. Quelles sont les priorités économiques du nouveau régime ? Où en est le Gabon après des années de gouvernance marquées par la dépendance pétrolière et les inégalités sociales ? Et quelles sont les attentes des populations pour la relance de la croissance ? Autant de questions que nous allons explorer. Et puis nous ferons un tour en République centrafricaine où l'économie numérique, locomotive de la croissance nationale, est aujourd'hui confrontée à l'arrivée informelle d'un service d'Internet par satellite, ce qui bouleverse l'équilibre du marché local. Économie et développement, c'est Rodrigue Guezoudia au micro. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Le Gabon est à la croisée des chemins. Pour la première fois depuis des décennies, ce pays d'Afrique centrale, longtemps dominé par une économie rentière fondée sur le pétrole, amorce une transformation profonde. Une transition historique, politique, mais surtout économique. Selon la Banque mondiale, le secteur pétrolier représentait encore 38% du PIB et plus de 80% des exportations du Gabon en 2022. Une dépendance devenue insoutenable, notamment face à la volatilité des cours mondiaux du brut. Mais aux yeux de l'expert consultant camerounais en commerce international et en développement, Honoré Mondo Mobé, le pays est en train de connaître une mutation économique fondamentale.
Le Gabon vient donc de connaître une mutation profonde et elle semble être une adhésion globale qui va certainement corriger ce qui a été longtemps reproché à l'économie gabonaise. Le Gabon était pétrolo-dépendant. Le Gabon dépendait des mines du manganèse, d'uranium et de l'okoumé. Aujourd'hui, avec un développement structurel de l'industrie agroalimentaire, le Gabon va donc être beaucoup plus résilient, protéger sa forêt, créer plus d'emplois et s'autonomiser encore plus de façon remarquable dans la zone CEMAC.
Et cette mutation s'incarne d'abord dans un retour à la terre. Le pays mise désormais sur la relance de l'agriculture. Une urgence, près de 80% des denrées alimentaires étaient importées jusqu'en 2023, grevant lourdement la balance commerciale. Désormais, les nouvelles autorités veulent inverser la tendance, promouvoir l'autosuffisance alimentaire, soutenir la transformation agroalimentaire locale et créer de la valeur sur place. Plus de 150 000 hectares de terres arables sont actuellement en cours de réhabilitation, selon le ministère gabonais de l'Agriculture. Une telle réorientation pourrait permettre, selon certains experts, d'économiser plus de 100 milliards de francs CFA par an en importation, tout en générant des milliers d'emplois directs. Brice Akwe-Ovono est ingénieur senior, expert géotechnicien.
Il est urgent de réduire notre indépendance au pétrole, sûrement en renforçant certains secteurs porteurs comme l'agriculture, la pêche, le tourisme, les mines, les industries de transformation locale. Il faut vraiment qu'on apprenne à transformer nos matières premières localement. Cela permettra de créer en même temps de l'emploi, de la stabilité des recettes publiques, etc.
Mais cette ambition ne peut se réaliser sans une modernisation des infrastructures. Routes, électricité, télécommunications, près de 60% du territoire gabonais reste faiblement connecté, selon les données de la Banque africaine de développement. Et seuls 33% des habitants ont un accès fiable à l'électricité en milieu rural. La construction de nouvelles routes et la digitalisation des services publics, qui sont aussi des attentes de Brice Akwe-Ovono, figurent donc parmi les priorités du nouveau régime.
Alors ces investissements sont essentiels pour stimuler l'activité économique, surtout à l'intérieur du pays, parce que nous sommes complètement déconnectés de l'intérieur du pays.
Autre pilier du changement, l'éducation et la formation professionnelle. Le taux de chômage chez les jeunes avoisinait 37% en 2023, selon le FMI. Adapter les formations aux réalités économiques du pays devient un enjeu crucial pour favoriser l'auto-emploi et endiguer l'exode des talents. Mais relancer une économie, c'est aussi soutenir ceux qui la construisent au quotidien, selon Ivan Nguema. L'expert en cybersécurité, risques numériques et dans les domaines bancaires, miniers et télécoms met ainsi l'accent sur les entrepreneurs.
Une des principales contraintes qui freinent l'activité économique au Gabon, notamment pour les entrepreneurs, c'est pour la plupart du temps l'accès au financement. Certes, nous voyons bien des mécanismes qui sont mis en place, une volonté réelle de l'État actuel à inciter les jeunes à aller au niveau de l'entrepreneuriat, à développer certains programmes spécifiques avec les organismes ici sur le plan local. Mais la réalité, c'est que tous ces jeunes, malheureusement, se retrouvent parfois pour certains être heurtés à l'accès au financement qui leur permettra de pouvoir démarrer leur activité.
Effectivement, dans le pays, plus de 110% des PME n'ont pas accès à un crédit bancaire formel, d'après une étude conjointe du FMI et de la BEAC. Une réalité qui freine la croissance et l'innovation. Pour y remédier, une banque a été créée en décembre 2024. Objectif, simplifier l'accès au crédit, offrir des garanties adaptées, accompagner les jeunes porteurs de projets avec des formations et des incubateurs. Ce qui donne davantage d'espoir à Ivan Nguema.
Puisque nous avons vu beaucoup d'activités dont la plupart des jeunes entrepreneurs gabonais ou bien des jeunes gabonais ne s'intéressaient pas, on voit plus ou moins cette effervescence, on nous voit plus ou moins, pour ne prendre que l'exemple, de la mise en place d'État SIGAB, qui est un mécanisme avec le PNPE, qui permet aujourd'hui à ces jeunes entrepreneurs de pouvoir être autonomes et de créer un tissu entrepreneurial typiquement local pour les jeunes gabonais. Donc ça, c'est une des initiatives parmi tant d'autres. Effectivement, nous savons que ces nouvelles autorités, à travers leur programme de société qu'ils ont eu à décliner, ils ont présenté leur vision sur le domaine entrepreneurial. En plus, en mettant en place sur le renforcement de la banque, c'est vraiment en mettant en place des mécanismes d'accompagnement de ces entrepreneurs, notamment, on entend par là, les formations qui sont dédiées pour accompagner ces entrepreneurs, les multiples programmes qui se développeront. Donc, ce sont tous ces différents éléments qui permettront à ces micro-entreprises, effectivement, de faire des champions.
Mais pour que cette relance soit durable, elle doit s'appuyer sur une gouvernance exemplaire, comme le martèle Brice Akwe-Ovono, ingénieur senior, expert géotechnicien.
Une gestion rigoureuse des finances publiques, c'est tout ce qu'on demande au nouveau régime. Alors, la lutte contre la corruption, la mise en œuvre de un cadre clair pour les investissements. Donc, vraiment, il faut que la direction générale de la lutte contre l'enrichissement illicite soit plus efficace et plus présente.
La gestion rigoureuse des finances publiques, la transparence dans l'attribution des marchés et le paiement de la dette intérieure, estimé à plus de 1 000 milliards de francs CFA fin 2023, sont autant de leviers pour restaurer la confiance des investisseurs et relancer les grands chantiers. Mais au-delà de tous ces aspects, Honoré Mondo-Mombé relève deux autres défis majeurs pour concrétiser le changement structurel amorcé au Gabon.
Lutter contre la stigmatisation de certaines tribus, le conflit entre les Miénés, les Fang et les Tékés, doit s'arrêter pour créer vraiment un Gabon uni, dont les Gabonais doivent mettre le secteur agroalimentaire et de la transformation des PME comme outil fondamental pour faire décoller l'économie.
Le Gabon tourne une page. Le chemin de la diversification est exigeant, semé d'embûches, mais aussi de promesses. De l'agriculture à la tech, du bois à l'éducation, de la PME au grand chantier, c'est tout un pays qui aspire à écrire une nouvelle histoire économique, plus inclusive, plus résiliente, plus durable. DW. Suite de ce magazine, l'économie numérique représente près de 40% du produit intérieur brut de la République centrafricaine. Un secteur stratégique qui a démontré sa résilience, même face aux crises majeures telles que celle de 2008 ou encore la pandémie de la COVID-19 en 2020. Pourtant, cette locomotive de la croissance nationale est aujourd'hui confrontée à un défi de taille, l'arrivée informelle de Starlink, le service d'Internet par satellite, qui bouleverse l'équilibre du marché local. Reportage de Jean-Fernand Quenant, notre correspondant à Bangui.
Le numérique centrafricain attire. Plusieurs opérateurs de télécommunications s'y sont implantés, encouragés par un régime de licence assouplie qui favorise la concurrence. Mais sur le terrain, la qualité de service reste largement en deçà des attentes, comme le souligne Jean-Yves Maganda, responsable de la Maison de Service, une organisation de la société civile.
Je pense que la Maison de Service a essayé d'offrir des services de connexion pour permettre à nos OEC membres d'envoyer leurs documents, rapports de projet à leurs partenaires. Mais malheureusement, on s'est confronté à ces problèmes de connexion. Vous pouvez avoir même les modems, vous pouvez même souscrire chez les sociétés de téléphonie mobile, mais le débit de la connexion est pratiquement très faible, ce qui fait que l'accessibilité à l'Internet, surtout à la connexion, pose vraiment un sérieux problème aujourd'hui en Centrafrique.
Ce déficit de performance pousse de nombreux utilisateurs vers des solutions alternatives. C'est dans ce contexte qu'a émergé Starlink, apprécié pour son haut débit, stable et disponible même dans les zones reculées. Rémi Diamous, utilisateur du service, en témoigne.
Ben, c'est le haut débit et c'est une très bonne qualité, le Starlink. Si on retrouve actuellement un peu partout dans les quartiers, dans les administrations publiques même, parce que il y a même des projets gouvernementaux qui utilisent ce kit Starlink. Donc, c'est une très bonne qualité. Parce que malheureusement, aujourd'hui, nous nous orientons beaucoup plus vers Starlink parce qu'on parle beaucoup plus de fibre optique, on ne voit pas, et que les sociétés mobiles ici ne donnent pas une vraie connexion. Et c'est tout ça là qui nous pousse à utiliser Starlink.
Alors que l'Union européenne et la Banque africaine de développement ont investi dans le déploiement de la fibre optique pour améliorer la connectivité nationale, Starlink s'impose sans cadre légal clair, créant une concurrence que les cadres locaux jugent déloyale. L'ARCEP, l'autorité de régulation, ainsi que plusieurs fournisseurs comme Net comme Service que dirige Houssen Fakouri, tirent la sonnette d'alarme.
Pour nous, dans notre parc client, on a perdu à propos de 70 à 72% de nos clients. Et on est connecté sur fibre optique et on n'arrive pas à commercialiser le fibre optique. C'est à cause d'abord de la concurrence déloyale. Parce que nous, il y a des taxes à payer, il y a des impôts à payer, il y a des endroits, des employés à payer. Alors que Starlink, s'il s'agit seulement de mettre une petite antenne sur le toit, et puis c'est tout. Déjà, même le prix, c'est différent. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qu'on va faire avec ça, mais si on continue dans les mêmes choses, je ne pense pas qu'on peut continuer dans ce domaine.
Selon une étude sectorielle intermédiaire, les opérateurs privés auraient déjà perdu 15 à 20% de parts de marché. Le gouvernement a tenté d'interdire l'utilisation de Starlink, mais les utilisateurs ne s'y plient. Malgré la crise, les autorités affichent leur optimisme. Christophe Kaya, directeur de l'économie numérique au ministère des Postes et Télécommunications, rappelle l'importance du secteur.
La contribution de l'économie numérique dans la caisse de l'État varie entre 30 à 40% sur le PIB. Le paiement des licences des opérateurs récemment, on a drainé plus de 18 milliards dans la caisse de l'État. Donc aujourd'hui, notre secteur n'est de moindre dans la contribution dans l'assiette fiscale centrafricaine.
Cependant, l'État ne peut ignorer les défis posés par Starlink. L'ARCEP affirme travailler activement à la régulation des fréquences et à l'analyse du modèle économique du géant spatial pour envisager un encadrement adapté. Christophe Kaya.
L'ARCEP est doté des équipements par la Banque mondiale. Ces équipements vont permettre à l'ARCEP maintenant de faire un balayage des spectres de fréquences qui naviguent dans notre pays. L'affaire de Starlink est un problème économique aujourd'hui majeur. Et ça constitue aussi un frein ou bien un souci par rapport aux activités des opérateurs. Ce problème est connu et l'ARCEP travaille dans ce sens-là pour trouver une solution à cette situation et surtout comprendre quel est le modèle d'affaires que Starlink fait. Maintenant, comment on peut réglementer ça? Comment les autres pays ont fait? Quels sont les défis auxquels ils ont fait face? Et comment les opérateurs aussi peuvent tenir face à ce bouleversement du marché? C'est un problème important, mais le problème est connu et le problème est en cours de traitement.
En attendant, les opérateurs locaux redoutent un effondrement de leur activité, tandis que les consommateurs plébiscitent une solution qui leur offre enfin une connectivité fiable. Entre modernisation et souveraineté numérique, le gouvernement est face à un dilemme stratégique. Jean-Fernand Kouina, à Bangui pour la Deutsche Welle.
Merci Jean-Fernand Kouina. Ce sujet sur l'arrivée informelle de Starlink en RCA vient mettre un terme à ce numéro d'économie et développement. Je vous remercie de l'avoir suivi. Vous pouvez le réécouter en podcast sur notre site www.dw.com/français. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous. D'ici là, portez-vous bien.